Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pageau et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du consensus de la Deuxième Guerre mondiale, comment il s'effondre, puis surtout, c'est quoi le lien avec le Québec dans tout ça? Parce que t'en parles beaucoup dans le monde anglophone de l'échec de ce consensus-là maintenant, puis je suis pas certain comment ça va se répercuter au Québec. Fait que pour commencer, Jonathan, pourrais-tu nous donner à grande échelle, c'est quoi ta thèse sur l'effondrement du consensus de la Deuxième Guerre mondiale?
Oui, bien, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte au niveau de cette histoire-là. Il y a une histoire très pratique, c'est-à-dire, moi, ça fait longtemps que j'ai l'impression que quand les derniers vétérans ou les dernières personnes qui ont carrément vécu la Deuxième Guerre mondiale vont décéder, que la mythologie qui était autour ou qui allait avec va commencer à s'effriter. Parce qu'il y avait, quelque chose de très inconscient aussi dans la façon dont les gens avaient accepté les conséquences, on pourrait dire, ou les conséquences narratives de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a aussi le fait que dans la narrative de la Deuxième Guerre mondiale, bien, il y a des tabous, tu sais, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de penser, il y a des choses dont... Puis c'est normal parce que, tu sais, il faut faire attention de bien le dire. C'est normal qu'il y ait des tabous dans les histoires, surtout les histoires de fondation. Il y a toujours un péché qui est caché, il y a toujours quelque chose qu'on doit exclure ou qu'on doit marginaliser pour donner la vision, tu sais, une vision claire vers laquelle avancer. Mais bon, ces histoires-là, surtout l'histoire qui s'est manifestée après la Deuxième Guerre mondiale, était assez limitée. C'est pas une grande histoire, là. C'est pas comme un grand mythe, comme par exemple la guerre de Troie, la vision de la guerre de Troie ou les grandes épiques de l'Ancien Monde. Là. C'est une vision qui est assez limitée, qui est assez d'un côté aussi. Puis, ben, les effets secondaires commencent à se montrer à un moment donné. Quand on choisit quelque chose, ben, y a quelque chose qu'on exclut. Puis au début, quand on le choisit, ben, on voit les côtés positifs de la chose. C'est totalement normal. C'est pour la raison pour laquelle on les a choisis. Mais il y a toujours des effets non calculés dans nos choix. Puis c'est dans tout. Disons que tu décides de marier quelqu'un, ben, tu la maries pour la raison qui t'attire. La chose qui t'attire, c'est ça qui fait que tu veux la marier. Mais cette personne-là, même la chose qui t'attire, elle a plein de conséquences que tu n'as pas vues au début parce que il fallait motiver ton action. Mais avec les années, avec le temps, à un moment donné, les effets secondaires ou disons les aspects non dits ou les aspects qui n'étaient pas calculés par ta direction première vont commencer à se manifester nécessairement, puis il va falloir en rendre compte, disons. Puis on pourrait dire que c'est ça un peu qui est en train de se passer, c'est-à-dire que un des aspects simples souvent que je mentionne, c'est que quand on s'est battu dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident en général, bien, on dit qu'on a gagné la guerre puis que c'était vraiment bon, tu sais, c'est quelque chose de bien. On a gagné la guerre, on a battu les nazis, on a battu les méchants, on a battu les excès autoritaires des fascistes. Mais souvent, ce qu'on dit pas, c'est qu'on s'est allié avec un Satan. On s'est allié avec Staline, avec un être vraiment immonde qui a massacré son propre peuple, qui a massacré les Ukrainiens, tu sais, qui a massacré des millions de personnes. Puis on s'est associé avec cette personne-là pour combattre un autre méchant, qui était vraiment méchant aussi, Hitler. Puis, mais ça, on n'en parle presque jamais. T'sais. Fait, ce que ça fait, c'est que ça crée un tabou dans la société. Ça fait comme une sorte de on pourrait appeler comme des œillères. Ça fait qu'il y a des choses qu'on a la difficulté à voir parce que si on n'est pas capable d'intégrer cette réalité-là dans notre monde. Une des choses, par exemple, ce que ça le fait, c'est que dans l'Occident en général, en Europe, en Amérique, eh bien, il y avait une fermeture assez radicale envers ce qu'on pourrait appeler le fascisme. C'est-à-dire, il y avait vraiment l'idée qu'il n'y a aucune idée fasciste qui peut entrer parce qu'on vient de les battre. T'sais, on vient de battre les identitaires radicaux. Donc, on ferme la porte de ce côté-là. Mais à cause qu'on s'est allié avec l'autre côté, avec l'extrême gauche, on s'est allié avec les communistes. C'est pas qu'on est pour les communistes au début, mais on peut en parler quand même, tu sais. On peut avoir le débat, on peut en discuter. Il y a comme une porte qui est légèrement ouverte de ce côté-là. Puis avec le temps, ce qui arrive, c'est que le monde commence à changer de plus en plus parce qu'on a laissé de la place au côté communiste. Bien là, le côté fasciste devient de plus en plus pointu. Là, c'est-à-dire, au début, les idées les plus radicales sont fascistes, puis après ça, les idées qui leur ressemblent sont fascistes, puis après ça, les idées qui ressemblent à celles qui leur ressemblent, au point où on commence à dire, tu sais, le nationalisme lui-même, bien, c'est fasciste. Tu sais, d'être chrétien, en fait, c'est fasciste. D'être un père de famille, tu sais, qui est monogame, bien, c'est pas que c'est fasciste, mais tu sais, c'est fascisant, là. Tu sais, une femme qui veut rester à la maison, qui veut s'occuper de ses enfants, tu sais, c'est pas l'extrême droite, mais tu sais, ça ressemble aux idées d'extrême droite pareil, tu sais. Puis on commence à voir ce genre de discours-là, tu sais. Puis on le voit au Québec, on est encore un peu dans la poussée, là, tu sais. Mais c'est. À un moment donné, ça ne peut pas tenir. T'sais, on peut pas commencer à dire que les gens qui veulent agir comme nos ancêtres des derniers milliers d'années, qui veulent une famille, des enfants, qui veulent s'occuper de leurs enfants, qui sont d'extrême droite, ça ne peut pas tenir. Fait qu'à un moment donné, ça brise. Puis là, tout d'un coup, le consensus, on pourrait dire, tombe. Fait que ça, c'est un aspect. Il y a beaucoup d'autres aspects aussi. Par exemple, à cause des allégeances, puis à cause des guerres qui sont en train de se passer en ce moment, on n'arrive pas à saisir ce qui se passe parce que la façon dont on avait construit le monde à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien, il tient plus, tu sais. Ça, c'est plus solide. Puis on se retrouve au Canada à applaudir un nazi dans le Parlement. Puis la raison pourquoi on a applaudi un nazi dans le Parlement, c'est parce que on a un narratif. La réalité, elle fonctionne plus avec le narratif. Puis là, tout d'un coup, les choses commencent à se frapper ensemble. On sait même pas ce qui se passe. Puis là, on applaudit un monsieur parce qu'il combat les Russes. On réalise pas que c'est un nazi, dans le fond, ou que c'est quelqu'un qui s'associe avec les nazis. On réalise pas aussi, d'ailleurs, qu'en Ukraine, il y a le bataillon Azov est littéralement un bataillon néo-nazi. Parce que tout notre monde, et bien, les méchants, c'est les nazis. Fait que, il faut que ce soit les Russes, les nazis, maintenant, dans l'histoire, parce que les autres, c'est les méchants, puis ils sont plus comme les fascistes, puis, tu sais, il n'y a plus rien qui fonctionne, ça commence à s'écrouler. C'est la même chose avec Israël. T'sais, Israël, c'est vraiment l'état du consensus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment où le peuple marginalisé dans l'histoire de l'Europe, finalement, on leur donne une chance. Finalement, ils trouvent leur place, ils trouvent leur nation. Ils peuvent construire leur propre nation. Mais là, on a créé un paradoxe. On s'en rend pas compte au début, mais on a créé un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a donné un état ethnique à un groupe qui était marginalisé, puis là, il devient un état totalement ethnique. Puis là, à un moment donné, il commence à agir comme un état ethnique. Puis là, on est totalement scandalisé parce qu'il agit comme un état ethnique. Mais c'est comme si ça fonctionne plus. T'sais, l'histoire, le narratif de la Deuxième Guerre mondiale, il tient plus la route. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Puis une des tendances, puis là, tu sais, les gens de gauche, ils sont sensibles à ça, ils le voient. C'est-à-dire, une des possibilités, bien, c'est de réhabiliter le Satan. Puis ça, on le voit dans certains discours aux États-Unis, tu sais, dans les endroits plus radicaux, mais ces endroits plus radicaux, ils commencent à avoir plus de place dans le discours. Mais c'est l'idée de dire, mais peut-être que dans le fond, c'est trompé, tu sais. Peut-être qu'en Deuxième Guerre mondiale, on s'est battu du mauvais côté. T'sais, peut-être qu'on aurait dû s'allier avec l'autre Satan pour combattre ce Satan-là. Mais ça, c'est pas nécessairement une bonne idée non plus, parce que les nazis étaient vraiment horribles. C'était pas. Il n'y a personne qui voudrait vivre. En tout cas, moi, je voudrais certainement pas vivre dans un monde que les nazis auraient construit. Là. C'est ça. Fait qu'on est mal. On est comme mal pris. T'sais. Au Québec, c'est la révolution tranquille, c'est pas compliqué, tu sais. Puis de comprendre, en fait, d'ailleurs, il faudrait peut-être juste expliquer c'est quoi le côté narratif de le consensus de la Deuxième Guerre mondiale. Une bonne façon de le comprendre, c'est dans les termes qu'on utilise souvent dans le monde symbolique, c'est-à-dire l'idée de le un et le multiple, tu sais. C'est-à-dire l'identité puis la variété ou la différence. Fait que si tu peux concevoir que c'est la façon dont les choses se sont alliées dans la guerre, ayez dans la tête là, l'image de ce qu'on a des nazis, là. Tu sais, les SS dans leur uniforme noir avec, tu sais, super sharp, mais vraiment tout en ligne, 10 000 personnes en carré. Tu sais, c'est ça notre image des. Puis là, après ça, votre image d'un GI américain, tu sais. Mais les GI, ils étaient tout n'importe comment, puis tu sais, leur casque, il est croche, mais tu sais, puis une cigarette dans la bouche, tu sais. Il y a comme le côté un peu James Dean, rebelle, tu sais, la, la, la diversité, la variété. On est des alliés, on n'est pas un axe, tu sais, nous, on est des alliés qui sont ensemble mais qui n'ont pas d'unité commune. Puis on va se battre contre l'axe, là, tu sais, l'espèce de méchant unité qui est autoritaire sur nous. Fait qu'il y a vraiment une esthétique, il y a vraiment une structure symbolique de ça. Puis avec le fait que c'est les Alliés qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ben ça fait que c'est l'histoire des Alliés qui a prédominé depuis. Et donc, on a le côté révolutionnaire, le côté libérateur, les côtés on doit se libérer des mœurs, on doit se libérer de toutes les choses qui sont autorités, on doit être autodéterminé, on doit plus être soumis à quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est plus nous. Puis au Québec, ben nous, c'était notre génération de la Révolution tranquille. T'sais, c'est pas compliqué. C'était eux. Ils ont tous embrassé la vision qui est devenue aussi la vision des années 60 partout. Les 60 en Europe, aux États-Unis. Ben nous, on l'a comme institutionnalisé dans notre Révolution tranquille. Puis ça l'a donné un monde qui était quand même productif. Ça a donné un monde qui a... je m'en moque un peu, puis je suis cynique, mais c'est un monde qui a quand même apporté une grande richesse, qui a apporté une acculturation des masses là, au Québec, une sorte de démocratisation de l'enseignement, toutes ces choses-là. Mais il y a une limite. Puis là, on arrive, disons, à la limite. Nous, on a fait face à notre limite dans notre dernier référendum. On a vraiment commencé à voir le problème du consensus de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, tu sais, dans le commentaire de Parizeau, on voit exactement le problème du paradoxe. C'est-à-dire, nous, on a essayé de se donner l'idée d'une nation révolutionnaire. On est une nation qui veut se libérer, tu sais, de l'opprobre sur nous, puis de la façon dont le Canada, les Anglais nous ont dominés avec leur désir de nous assimiler. Tu sais, c'est tout un langage comme ça. Et donc, on voulait s'autodéterminer, se libérer, comme les Juifs ont fait en Israël, comme les peuples marginalisés ont fait. Puis là, Parizeau, il a dit, ben, tu sais, la raison pourquoi on n'a pas réussi le référendum, c'est à cause des gens qui sont pas des Québécois. C'est à cause des étrangers. Mais ça, tu peux pas dire ça dans le consensus de la Deuxième Guerre mondiale. Là, tu viens de changer de rôle. Oh, OK, là, je suis plus la victime. OK, là, je suis plus celui sur lequel on agit. Je suis plus celui qui est contraint par une sorte d'autorité. Là, tout d'un coup, j'agis comme si, oh, c'est eux le problème. C'est cette multiplicité-là le problème. C'est parce qu'ils sont pas un avec nous. Parce qu'ils sont pas dans l'unité de l'identité québécoise. Et là, tout a commencé à casser à partir de ce moment-là. On a déjà vu, dans le fond, nous, le problème du consensus de la Deuxième Guerre mondiale. On l'a avec nous depuis, moi je pense depuis le référendum. Puis on sait pas comment gérer ça. T'sais, on sait pas comment arriver à concilier ce problème-là. Puis on vit encore les conséquences là en ce moment. Là, t'sais, on n'a aucune idée comment être Québécois. On n'a aucune idée c'est quoi. On n'arrive pas à formuler notre identité sans se sentir coupable. Puis là, en même temps, on sait qu'on veut pas se faire totalement avalé par les 400 millions d'anglophones qui sont autour de nous. Mais c'est ça, il faut arriver à faire face à la question parce que ça va juste empirer si on n'arrive pas à trouver une nouvelle histoire ou trouver une façon de réintégrer l'histoire à l'extérieur de la mythologie du consensus de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça se passe partout, hein? C'est pas juste ici que ça se passe partout dans le monde. Mais nous, on a notre version, qui est notre version des boomers québécois qui ont fait la Révolution tranquille, le refus global, tu t'en souviens? C'est ça le début de la culture québécoise, c'est tout refusé. C'est de se rebeller. C'est ça le début de la culture québécoise. Mais tu sais, tu peux pas avoir le refus global et l'identité québécoise puis pas réaliser que ces deux choses-là, ils ont un sérieux problème ensemble. Puis c'est ça. Puis ça se manifeste. Puis là, maintenant, ben là, on est au mur. Là. On est au mur parce que on a des voix au Québec qui commencent à parler à l'extérieur du consensus, qui commence à essayer de pointer du doigt les blessés, les blessures qui saignent, les trucs qui sont totalement, mais qu'on a essayé d'ignorer parce que on voulait continuer d'exister dans ce consensus-là. Puis des fois, ça peut être un petit peu, comment je pourrais dire? C'est sûr que des fois, ça peut être fait de façon un peu anarchique, ou pas anarchique, mais disons un peu, on essaie de tâter le terrain, de saisir comment qu'on peut reformuler notre identité puis notre continuité, mais ça se passe en ce moment.
Je serais curieux de parler un peu plus de les détails de comment on a fini par intégrer le consensus à la base au Québec, parce que un commentaire que j'ai entendu souvent sur les Québécois de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils n'étaient pas tant comme intéressés ou concernés par une bataille entre grosses puissances, là. Les Québécois se voyaient encore généralement comme un peuple de colonisés français, après ça anglais, puis ben combattez-les vos batailles en Europe, là, si vous voulez, là. Mais les Québécois, ils ne voulaient pas être conscrits, par exemple, ils ne se sentaient pas totalement concernés par ce narratif-là. Fait, comment est-ce que tu vois que ça a fini par nous rentrer quand même puis propager la révolution tranquille?
Non, mais je dis, nous, au Québec, c'était nos artistes, sont allés en France. C'est quoi ça? On le sait, on la connaît, l'histoire. Nos artistes sont allés en France, sont allés à New York. Ils ont assimilé ces idées-là. Puis ils sont revenus, puis ils ont publié le Refus global. Le Refus global, c'est vraiment... c'est vraiment un mouvement culturel. C'est un mouvement culturel de révolutionnaire. C'est un mouvement du consensus de la Deuxième Guerre mondiale. Puis après ça, ben on a commencé à... on l'a commencé à l'intégrer. Ça a pris quand même du temps, mais ça s'est fait par des élites, là, des élites culturelles. Puis on a commencé à l'intégrer au moment où, en même temps, le Québec a dû faire face à Vatican II. Puis, tu sais, Vatican II aussi, c'est le consensus de la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, Vatican II, c'est juste un reflet de la même chose. C'est un désir de libération, c'est un désir... C'est l'idée que l'authenticité se trouve dans la diversité, que l'authenticité se trouve dans une autorité qui est plus souple et tout. Tu sais, il faut faire attention. Toutes ces choses-là sont vraies, là. Je dis pas que le consensus était mauvais en soi. C'est juste qu'il est insuffisant, c'est tout. C'est-à-dire, les choses que les gens, après la Deuxième Guerre mondiale, ont pointées, elles sont vraies. Sinon, elles n'auraient pas accroché. Elles n'auraient pas donné un monde. C'est juste qu'elles sont insuffisantes. Puis là, on voit leur insuffisance. Fait que là, avec Vatican II, puis l'Église qui a commencé à perdre son autorité, avec la pensée révolutionnaire culturelle qui est venue avec le refus global, qui s'est joint à l'esprit nationaliste de René Lévesque, ben, tu sais, ça veut dire qu'on était en plein dedans, là. Tu sais, puis je comprends parce que les gens ont dit, tu sais, nous, on a refusé la guerre. Dans le fond, les Québécois ne voulaient pas aller se battre là-bas. Mais, tu sais, ces gens-là, c'est pas les boomers. Tu sais, je veux dire, c'est les parents des boomers. Les boomers, eux, ils sont nés après la guerre. Puis ils ont eu le monde d'après-guerre. Puis ce monde d'après-guerre-là, ben, il a eu la forme qu'il a eu.
Ouais, ils ont été influencés par les artistes, comme tu mentionnais, qui étaient, eux, formés par les États-Unis puis la France.
Ouais, puis la France, là, nos intellectuels français, c'est normal. Il n'y avait pas vraiment de grande culture intellectuelle, disons, au Québec. Là, il y en avait peut-être, mais c'était pas énorme. Et donc, c'est certain qu'il y avait une alliance avec la France. Puis quand la France a eu ses moments... mai 64, on fait face à ça, là.
Ouais. Puis j'imagine, en plus, de l'autre côté, le Canada était beaucoup plus, accommodant envers le Québec après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il était d'accord avec le consensus aussi, là. Je pense pas que le Québec aurait pu, même parler de référendum comme il parlait, aux deux référendums qu'on a fait. Avant les années 40, mettons.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai dit mai 64, là, c'est mai 68, là, mais tu sais, exactement, c'est-à-dire que c'est dans la vision du consensus de la Deuxième Guerre mondiale que le nationalisme québécois pouvait même s'établir dans le Canada. Parce que avant ça, tu sais, l'esprit impérial, il était vraiment fort. Tu sais, les Anglais, ils nous auraient juste pas laissé faire, là. Tu sais, je veux dire, les Anglais... ils l'ont déjà fait, là, disperser les francophones. Là. Ils l'ont déjà fait, les déplacer de leur terre. Là. C'est pas comme si c'était impossible. Ils savaient très bien comment le faire. Ils l'avaient déjà fait. Et donc, mais sauf qu'il y a quelque chose de réel dans l'idée du peuple autodéterminé, l'espèce d'esprit du consensus qui a rendu tout ça possible. Puis c'est pas quelque chose qui est dicté par en haut. Là. C'est quelque chose qui, comment je pourrais dire, c'est comme un esprit du temps.
Oui, puis après, j'ai l'impression à chaque génération, c'est devenu plus intuitif. Là, comme, moi, j'avais aucune idée. Je suis né dans les années 90, tu sais, influencé par la culture, la télévision, le cinéma, tu sais, américain essentiellement, là, de ces années-là. Puis je me sentais comme autant américain que québécois, je te dirais. Là. Je voyais pas vraiment, tu sais, de quelque chose. Parce que je parlais assez, anglais assez tôt, fait que j'étais capable de consommer toutes ces choses-là. Puis j'avais comme aucun attachement spécifique à la culture française. Puis j'avais pas aucune préconception, disons, contre ou pour le consensus de la Deuxième Guerre mondiale. Là. C'était juste, j'avais l'impression, je me posais pas de questions. Là. C'était comme le monde dans lequel
j'étais. C'est la réalité, là, tu sais. Je veux dire, on sait ce que. Tu sais, c'est intéressant, mais tu sais, ça doit être intéressant pour toi aussi, mais c'est intéressant pour moi parce que, tu sais, on voit que dans les derniers 5 ans, il y a certaines formes de pensée ou certaines directions ou certaines places intellectuelles qui existaient tout simplement pas, en fait. Qui non seulement que. Qui était tabou, mais qui était carrément au-delà du tabou, c'est-à-dire il entrait même pas dans l'esprit, il n'y avait pas moyen même de penser certaines pensées ou de voir certaines choses. Il y avait vraiment, tu sais, il y avait des blind spots comme ça. Puis là, tout à coup, ben ces choses-là, ils deviennent possibles. Tu sais, c'est assez incroyable de vivre ça, de vivre un moment de changement de forme du monde. On le voit, là, tu sais, moi, je pense que ça a commencé quand même à peu près en 2016, là, où les choses ont commencé à vraiment brasser, là, tu sais, c'est sûr, un peu à cause d'élections américaines. Mais tu sais, on a vu Jordan Peterson ici aussi en même temps. Tu sais, tout ça fait que là, tout d'un coup, on le voit, tu sais. Puis on est comme entre deux mondes. C'est pour ça qu'on a une sorte de sensibilité qui est différente. Une sensibilité dans laquelle le monde est pris pour acquis, tu sais. Mais, tu sais, on est un peu comme... c'est comme si on est dans un aquarium que l'eau est en train de se faire vider, tu sais. Puis là, tu te rends compte que tu étais dans de l'eau parce que là, tu vois l'eau qui descend, tu t'en rends compte. Puis là, tu dis, OK, ben là, il faut qu'il y ait d'autres eaux qui soient versées, il faut qu'il y ait une nouvelle eau qui soit versée. Mais on n'est pas sûr encore ça va être quoi, cette nouvelle eau-là. Fait qu'on est vraiment dans un moment assez magique, là, terrifiant, mais quand même excitant aussi en même temps parce qu'on est, en train de comprendre c'est quoi la forme d'un monde, tu sais.
Puis, au Québec, disons, comment le consensus s'effondre présentement. Je trouve ça pas si simple à comprendre, mais disons, ça va vite, puis ça fait des choses qui n'étaient pas possibles il n'y a pas longtemps, là, comme un retour du souverainisme, notamment chez les jeunes. Il y a une grosse vague ces temps-ci, là. Puis il y a comme une explication superficielle puis une explication plus profonde, là. Mais superficiellement, il y a notamment un rappeur québécois, Kinjio, qui a commencé à sortir de la musique souverainiste il y a un an ou deux. Puis à travers ça, il y a plein de jeunes qui ont décidé qu'ils étaient souverainistes eux autres aussi. Mais c'est ça c'est comme l'explication, disons, des causes secondaires. Là. Mais c'est au niveau des causes primaires, tu sais, pourquoi est-ce qu'il y a un désir d'identité autant profond chez les jeunes? Ben ça, on doute un peu, là, ça, on parle de ça sur la chaîne depuis longtemps. Mais après cette fragmentation-là qu'on a eue pendant tellement longtemps, puis des jeunes comme moi, là, justement, je suis né, comme je disais, autant américain que québécois. Je n'étais pas plus intéressé, disons, par la politique québécoise que la politique américaine ou ailleurs. Là. C'était comme ma culture. Là. Puis que maintenant, chez des jeunes, encore plus jeunes que moi, qui sont justement dans ce monde d'atomisé-là, il y a un désir de retourner à une structure, là, d'être notre propre nation, etc. Ben, c'est pas si surprenant que ça.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, on va voir ce qui va arriver parce que, en ce moment, les voix qui sont plus souverainistes, ils ont presque pas le choix de parler. Mais c'est pas nécessairement, c'est pas comme une décision, là, mais il n'y a presque pas d'autre possibilité à part de continuer de se concilier avec le consensus. Puis il y a encore ça ici, là. T'sais. On n'est pas totalement sorti. Et donc, il y a certaines choses encore que c'est impossible de penser. On doit encore mettre certains gants blancs autour de certains sujets puis dire les choses d'une certaine façon pour éviter le scandale. Mais, tu sais, on peut le voir si on est juste attentif à ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre. Les gens comme Tommy Robinson, il y a plusieurs personnages là, aux États-Unis, là, la montée de Nick Fuentes et tous ces gens-là, c'est vraiment marquant que là, tout d'un coup, ces gens-là, ils commencent à prendre la place. Fait qu'il faut être attentif à ça, parce que c'est sûr qu'il y a la possibilité, il y a toujours eu la possibilité que le nationalisme québécois tombe dans un extrême identitaire. Ça a toujours été là. C'est pour ça aussi que le camp Parizeau l'a comme dit, mais là, ça l'a fait brasser, ça l'a fait tout chavirer la machine, parce que c'est clair qu'il y a ça, il y a ça d'implicitement possible dans la notion de souveraineté québécoise. Mais tu sais, on pourrait dire que la possibilité qu'on peut voir, le danger, je ne sais pas si on pourrait dire le danger, ou c'est possible qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont dire « ben oui ». C'est ça, oui. Non seulement que c'est nationaliste, identitaire, mais c'est carrément ethnique aussi. Puis les gens, ils vont juste arrêter de s'excuser, arrêter de faire attention. Puis c'est sûr que là, on aurait un chemin dangereux devant nous. C'est relié un petit peu aussi avec les dernières vidéos qu'on a faites sur la relation entre le déluge et la tour de Babel, là, sur la question démographique. Mais fait que, c'est pour ça que avoir la sagesse de voir ce qui se passe et d'être sensible à ce qui se passe, puis de pas non plus... Parce qu'un des dangers aussi, là, à la fin d'un consensus, c'est le désir de l'imposer à tout prix. Puis plus que tu t'arrives dans les effets secondaires, puis à la fin d'un monde ou à la fin d'un système ou quoi que ce soit, plus qu'on tombe dans la sentimentalité, puis la réaction juste émotionnelle devant quelque chose. En anglais, on dit pearl clutching, là, tu sais. Je peux pas croire que t'as dit ça, t'es vraiment un monstre. Comment oses-tu, tu sais? Puis il y a pas d'argument, il y a pas de réflexion, c'est juste des émotions, c'est juste. Mais t'sais, ça peut pas durer, là, t'sais. On va le voir, c'est sûr qu'on va le voir de plus en plus, mais t'sais, ça peut pas durer, ça. À un moment donné, il faut traiter les questions, il faut vraiment être un petit peu plus honnête. Si on peut avoir des gens qui sont honnêtes, qui sont prêts à discuter puis à parler de ça, peut-être qu'on peut s'en sortir. Avec quelque chose qui est bon pour tout le monde.
Paul Vanuclé, il mentionne souvent une histoire en fait, comme une explication d'un ami médecin qui s'était fait dire là, que les choses juste avant de mourir, c'est souvent là qu'ils font le plus de bruit. Mais il y a eu de ça, là, des vagues de ça. Par exemple, le nouvel athéisme là, des années 2000, là, ça semble être comme la dernière vague, justement, d'athéisme là, qui fait beaucoup de bruit, c'est pas nécessairement cohérent juste avant de s'effondrer.
Mais... Oui, c'est drôle parce que la vague des nouveaux athées était très, en fait, sentimentale. Quand tu vois les gens, au début, les gens pensaient qu'ils étaient super, tu sais, ils sont super rationnels, mais quand tu les vois parler, tu réalises que c'est vraiment là, des gens de petites madames offensées moralement, tu sais, qui s'offensent que Dieu il est comme ça, puis qui sont fâchés parce que Dieu il a dit telle chose. Et... Oui, c'est sûr, mais c'est sûr que, fait que là, c'est sûr qu'on va voir de ce genre de comportement-là, tu sais. Puis, tu sais, bon, il faut juste rester calme. Puis être capable de regarder les vrais problèmes puis la vraie réalité. T'sais, moi, j'ai quand même l'impression que... T'sais, un exemple, là, de par exemple, du problème du consensus de l'Union mondiale, c'est vraiment simple. Hein. C'est super intéressant, ça. C'est on est obsédé à enseigner l'histoire québécoise, mais la façon dont on enseigne l'histoire québécoise, il n'y a absolument personne qui s'en rappelle. C'est super intéressant. T'sais, moi, mes enfants, à chaque année à l'école, depuis qu'ils sont au primaire, on leur enseigne l'histoire québécoise. C'est juste sans arrêt. Je pense qu'il y avait une année d'histoire internationale, il y avait comme une année d'histoire du Canada, mais sinon, c'est chaque année, c'est juste l'histoire québécoise. Demande à mes enfants c'est quoi l'histoire québécoise, ils savent absolument rien. Et ils savent à peine c'est qui Champlain, là. Pourquoi? Comment c'est possible? Mais c'est pas compliqué. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a comme un paradoxe qu'on veut être une nation révolutionnaire. En fait, on déteste notre histoire, en fait. En fait, on déteste les nos fondateurs secrètement. T'sais, on les aime pas, ces gens-là. Fait qu'on veut être une nation qui est comme révolutionnaire puis qui est autodéterminée, mais on déteste notre histoire, puis on déteste nos ancêtres, puis on déteste, dans le fond, tout le bagage religieux, puis toute la ferveur des gens comme Champlain, qui avait un grand amour pour le Christ, qui avait un grand amour pour Dieu. Tu sais, si on veut que le Québec continue d'exister, bien, il va falloir commencer à se rappeler de notre histoire. T'sais, puis de s'en rappeler d'une façon où on est capable de célébrer les belles choses qui ont été faites, puis de se rappeler des choses incroyables que nos ancêtres ont, à travers lesquelles ils ont passé. Pas juste être des victimes des Anglais qui doivent être autodéterminés. Ça marche pas.
J'ai la même expérience que tes enfants. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, justement, je me sentais plus américain que québécois, peut-être. Là. Comme, ça semblait plus intéressant, je sais pas, d'écouter Bender Brothers à la télé. Il y avait des trucs, disons, cinématographiques ou télévisuels américains qui, au moins, montraient une histoire intéressante. Puis ça, ben, je m'en rappelais. L'histoire québécoise, je me rappelais de rien. Parce que, comme tu dis, c'était juste comme implicitement des critiques de notre histoire de toute façon. Fait que c'était jamais présenté de façon, disons, héroïque puis intéressante. Là. Fait que j'oubliais tout ça. Puis, disons... Mais c'est intéressant, par exemple, parce que... Revenir à ce que tu disais plus tôt, là, justement, comme je commence à voir des jeunes qui revendiquent plus, disons, la beauté de notre histoire. Puis c'est drôle parce que là, on peut avoir un peu le... C'est pas tout le temps ça, mais des fois, ça fait justement la position que tu parles, là, où il y a des boomers qui sont encore souverainistes, mais qui sont comme mal à l'aise avec l'idée d'une nation en même temps qui excluerait des gens. Même chose que tu avais dit au début. Mais de l'autre côté, je vois des jeunes qui, eux, des fois, sont prêts à être très, très identitaires puis très, très stricts, là, puis pas avoir ce malaise-là, disons, que les boomers ont. Puis c'est comme deux extrêmes de la société, là, plus les plus vieux puis les plus jeunes, qui se retrouvent comme à vouloir une indépendance, mais d'une façon... différentes puis qui clashent.
Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il va falloir... Moi, j'ai l'impression, tu sais... En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai été focusé sur les endroits où mon, disons, mes efforts donnaient de l'attention, puis... Mais j'ai l'impression qu'il faut avoir des gens ici qui sont prêts à faire le travail de se rappeler de nos légendes, tu sais, de se rappeler de nos anciennes histoires, les raconter d'une façon qui est pas juste cynique, qui est pas juste anticléricale, qui est pas juste toutes les façons dont on les a entendues. Je me souviens, c'est quand, il y a peut-être 15 ans de ça, je me souviens pas exactement, là, mais il avait refait un film basé sur les belles histoires du pays d'en haut. Ça s'appelait Séraphin, c'est surtout sur Séraphin. Tu sais, c'était tellement horrible. Tu sais, Séraphin, c'est juste un vieux porc c'était horrible, tu sais, c'était, il y avait pas rien du, puis le prêtre, il s'en fait que la pute du village, puis tu sais, c'était comme what, c'est qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est quoi vous faites à votre pays, les Québécois, vous détestez vraiment là. Ah, mais bon, c'est ça, j'ai l'impression que tu sais, il va falloir avoir des gens qui vont faire le travail, tu sais, de vraiment se rappeler, tu sais, puis pas c'est, tu sais, puis là, tu vois, je me plains. Hein, tu sais, je me plains du Québec, comme je fais toujours. Mais tu sais, la solution, c'est de se rappeler. Tu sais, la solution, c'est exactement ce qu'on dit, que c'est supposément que notre province, c'est « je me souviens », bien, peut-être qu'il faut commencer à le faire pour le vrai. Tu sais, vraiment se rappeler de notre histoire, puis se rappeler des sacrifices qui ont été faits, des grands martyrs canadiens, tu sais, puis toutes les choses qu'ils ont faites. Puis tu sais, là, puis sans s'excuser, là.
J'aurais envie de retourner un peu en arrière, là, essayer de comprendre un autre des aspects du consensus, puis comment il y a rapport au Québec. Là. Une des bonnes, disons, explications que j'avais entendues derrière le consensus, c'était que beaucoup de chrétiens, en fait, les Européens en général, étaient déçus de la performance des chrétiens, justement, dans les années 40. C'est de ne pas avoir réussi à stopper les mauvais aspects du fascisme. Des sociétés comme l'Allemagne où il y avait plein de chrétiens, là, en fait, puis si tu regardes comment les gens se sont comportés souvent, les chrétiens, là, souvent comme ils étaient complicites avec les nazis pour pas se faire eux-mêmes taper dessus, là, ils prenaient pas trop de risques sur leurs épaules pour sauver des gens qu'ils voyaient qui se faisaient maltraiter. Puis après que la Deuxième Guerre était terminée, il n'y a pas eu tant que ça, disons, d'intellectuels chrétiens qui expliquaient bien c'était quoi les causes. C'est qu'est-ce qui a mené à la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui a mené aux atrocités qu'on a vues en Allemagne. Fait que, comme par défaut, les gens se tournaient vers des penseurs athées qui, au moins, essayaient d'expliquer ce qui se passait. Fait que, ça, comme une des bonnes raisons que j'avais entendues pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont éloignés du christianisme et qui ont adopté, au lieu d'adopter Jésus comme figure morale positive, ils voulaient juste avoir Hitler comme figure morale négative, puis construire toute leur mythologie justement autour de ça. Okay. On sait plus c'est qui Dieu le bon, mais on sait c'est quoi le diable, puis on va juste essayer d'aller dans la direction opposée. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu penses de cette thèse-là, puis après ça, comment ça peut se répercuter ou non au Québec.
Oui. Je pense que c'est pas mauvais de penser comme ça. T'sais. C'est sûr que les chrétiens, ils doivent être responsables de leurs lacunes. Mais je mettrais peut-être une bémol, t'sais, dans le sens que je dirais que la même chose est arrivée aussi dans les révolutions communistes. C'est-à-dire les chrétiens, ils n'ont pas suffisamment fait pour résister au mal qui venait. Puis il faut toujours se rappeler que c'était comme ça que c'était perçu par les gens à l'époque. La façon dont les choses étaient perçues, c'est que, disons, du côté des nazis, du côté des fascistes, ben ils avaient vraiment peur des communistes. Ils disaient, les communistes, ils essaient d'envahir le monde, ils essaient de tout prendre, ils essaient d'amener leur espèce de monde satanique, matérialiste. Et donc, ils ont fait des compromis, tu sais. Je justifie pas leurs compromis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus juste dans un... c'est juste dans un espace vide là où là tout d'un coup ils ont décidé de se compromettre de cette façon-là, mais tu sais, il y avait comme une pression qui était de dire OK, ben il y avait des partis communistes là en Allemagne, il y avait des partis communistes dans les pays qui sont devenus fascistes, mais ils voyaient ce qui est arrivé en Russie, ils voyaient ce qui est arrivé pendant les révolutions, puis ils voulaient pas ça, tu sais. Puis on peut comprendre aussi que la même chose, finalement, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, du côté communiste, ils voyaient les fascistes comme quelque chose d'horrible qui allait prendre l'Europe, puis qui allait éliminer les gens faibles. Tu sais, c'était vraiment ça, là. Tu sais, les communistes, ils se voyaient comme les défenseurs des faibles, les défenseurs des marginalisés et tout. Et donc, je pense que c'est sûr qu'il y a ça dans le problème. Mais tu sais, je pense que à la base, le problème aussi, il est beaucoup plus profond que ça. T'sais. C'est-à-dire que le christianisme, arrivé au 20e siècle, surtout à la mi-20e siècle, il avait été tellement dénaturé de son côté métaphysique puis de son côté vraiment ontologique. Il était devenu comme une sorte de doctrine morale. T'sais, le genre de christianisme que Nietzsche a attaqué, t'sais, le genre de christianisme que les athées du début du 20e siècle attaquaient, c'est un christianisme qui était faible, en fait, t'sais, qui était faible au niveau philosophique, qui était faible. Et donc, c'est, en effet, comme tu dis, il n'y avait pas beaucoup à offrir pour répondre aux grandes questions puis aux problèmes que les gens faisaient face, t'sais. Puis malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que à cause que c'est les nazis qui ont gagné, ben tu sais, c'est les penseurs, tu sais, qui étaient plutôt communistes ou qui avaient une tendance, disons, vers la pensée communiste, qui finalement ont commencé à prendre le dessus puis qui se sont imposés là.
Penses-tu que ça a joué un impact, disons, direct ou indirect sur la sécularisation du Québec pendant la Révolution tranquille?
Ben, tu sais, moi, j'ai l'impression que oui, là, tu sais, mais je connais pas, tu sais, j'ai lu des histoires, mais tu sais, des fois aussi, c'est quasiment des légendes urbaines, là, tu sais, des clergés qui lisaient les auteurs un petit peu plus louches, là, tu sais, puis l'infiltration de l'Église par le côté communiste ou le côté, tu sais, toute la pensée, par exemple, la théologie de la libération, tu sais, c'est vraiment une infiltration communiste dans l'Église catholique. Fait que c'est ça, tu sais, les gens qui lisaient, disons, nos élites intellectuelles, ben ils lisaient ce que les élites intellectuelles en France lisaient. Fait que t'as des gens, les clergés qui lisent Sartre, qui lisent Camus, qui lisent après ça Marcuse, qui lisent tous ces gens-là. Puis tu sais, l'influence, elle entre. Tu sais, j'ai rien contre lire Sartre, moi je les ai tous lus, ces gens-là, mais... j'ai l'impression qu'il y avait comme un manque de compréhension de ce qui se passait. T'sais. Moi, honnêtement, c'est certain que je vois la Révolution tranquille comme une trahison de l'intérieur. T'sais. C'est le clergé qui nous a trahis, dans le fond. C'est le clergé qui lui-même est devenu corrompu. C'est corrompu intellectuellement et aussi corrompu moralement. Le clergé de Vatican II, c'est le clergé de la Libération. C'est ces clergés-là qui sont devenus des pédophiles. Je m'excuse, mais les abuseurs d'enfants qu'on accuse là, partout, là, c'est tous ces prêtres-là. Là. Comment tu peux avoir un prêtre qui, en secret, lit le Marquis de Sade parce que c'est un bon progressiste libéral? Il lit tous les auteurs que vous lisez. Là. Il lit Lolita. Il les lit, ces textes-là, les mêmes textes là, que toutes nos élites intellectuelles lisent. Bien, les prêtres les lisaient là, dans les années 50, 60, 70. Ouais, l'idée que la libération des mœurs a mené à... En tout cas, c'est drôle que les gens ne voient pas qu'il y en fait une connexion entre toutes ces choses-là.
Ouais, c'est quand même bien documenté là, que les abus ont... Ça ne date pas genre, d'avant la Révolution tranquille. Le pic des abus, c'est en Occident, en général, là, c'était dans les années 60. Là, c'était avec la libération sexuelle, c'est là que c'était pas juste dans la population là, que les gens commençaient à dévergonder. Là, c'est arrivé même dans l'Église aussi, puis après ça, ça a redescendu. Fait qu'il y a une corrélation directe, là, comme tu dis.
Oui, en effet. Mais tu sais, c'est... Il y a certainement des gens qui pourraient t'sais, essayer de contrer le narratif qu'on propose, mais moi, j'ai l'impression qu'il est quand même assez solide, là.
C'est bon. Ben, ça fait le tour de tous les points que j'avais, là. Pour conclure, honnêtement, il va falloir que je trouve des bonnes façons de, tu sais, me renseigner sur c'est quoi comme l'histoire québécoise, puis des bonnes façons de la raconter aussi, puis de la rendre intéressante. Si jamais tu as des idées, là, des bonnes ressources que tu connais.
Mais moi, je connais pas assez bien l'histoire québécoise. C'est que ça, c'est clair. Je suis dans la même position que toi. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, je connais peut-être plus que la petite majorité des gens, mais... Mais c'est vraiment une connaissance insuffisante, ça, c'est certain. Alors, peut-être qu'on peut découvrir ça ensemble.
Ouais. Puis, ben, si les gens ont des suggestions aussi, là, il y a sûrement plein de Québécois qui nous écoutent, qui ont des bonnes idées, là, écrivez-nous ça. Les ressources, moi, je serais curieux, en tout cas. Merci tout le monde. Merci, Jonathan. On se reverra dans quelques semaines pour le prochain.